Chapitre 4. Un déjeuner public. C'était la tenue des assises du comté qui ramenait ainsi les plaisirs à Northwick. Étrange endurcissement du cœur humain, bien fait pour révolter la pensée, pour peu qu'on y réfléchisse. Des sages allaient prononcer sur la destinée de plusieurs hommes. Le fer de la loi menaçait plusieurs têtes, et ce moment terrible était pour le voisinage un signal de réunion, d'amusement et de fête. Les jeunes gens avaient devancé la voiture. Ils la rejoignirent lorsqu'elle entra dans la ville pour prévenir les dames qu'il fallait se rendre à la salle de bal, la pluie ne permettant pas de déjeuner dans le jardin comme on se l'était proposé. À l'instant où les chevaux s'arrêtaient, une pauvre femme couverte de lambeaux, ayant un enfant à ses côtés, un autre sur ses bras, s'approcha du carrosse et, présentant aux dames un papier où ses malheurs étaient exposés, elle les supplia de le lire ou de l'écouter elle-même un moment. Eugénia, par un prompt mouvement de compassion, tira sa bourse. Miss Margland la retint en lui disant d'un ton d'autorité « Mademoiselle, il ne faut jamais encourager les mendiants par des générosités déplacées. Vous ne savez pas le mal que vous faites. » Eugénia ne voulut pas désobéir, mais elle fit un signe au domestique qui le suivait de donner quelque chose. Edgar mit pied à terre pour aider les dames à descendre de la voiture et Lionel courut toujours devant pour prendre les billets. Indiana, confiée par Sir Hugh aux soins de Mandelbert et tout occupée du triomphe que ses charmes lui préparaient encore, s'achemina tout de suite vers la salle où l'on était rassemblé. Camilla, qui n'était pas si pressée, songeait à la pauvre femme que la gouvernante avait rebutée si durement. Elle l'appela près d'elle avec intérêt. « Qu'est-ce ?» lui dit-elle, « pauvre femme. Voyons ce papier. Donnez-le-moi que je le lise. » Miss Margland, qui survint, arracha le papier des mains de Camilla, le jeta dédaigneusement et quitta Camilla pour suivre les autres. « Je vous avertis, lui dit-elle, que si vous commencez une fois avec ces gens-là, cela ne finira jamais. Allons, laissez cette femme et venez donc. Vous vous amusez toujours. » Camilla, que ses dignes parents avaient élevée dans d'autres sentiments, qui ne passait jamais à côté d'un malheureux sans éprouver le besoin de le soulager, et qui ne pensait pas que l'impuissance de donner beaucoup fût une raison pour ne rien donner du tout, Camilla resta seule avec la pauvre femme et lui fit des questions d'une voix douce et consolante. L'infortunée lui répondit, en versant un torrent de larmes, qu'elle était la femme d'un des prisonniers qui, le lendemain, allait être condamné à mort ou déporté. Que le crime de son mari, le malheureux, il mourait de faim le jour qu'il le commit, était d'avoir volé dans une auberge un gigot de mouton, que c'était sa première faute et que sa misère en avait été la cause, que les juges prendraient tout cela peut-être en considération, mais que son mari, manquant de tout en prison, n'ayant pas de quoi se procurer une goutte de bouillon pour soutenir sa vie, n'aurait pas la force de se défendre et que, vraisemblablement, il expirerait avant que d'être jugé. Camilla la pria d'accepter un shilling, prit sa pétition, lui promit de faire tout ce qui dépendrait d'elle et laissa la malheureuse créature sanglotant de joie, d'espoir et de reconnaissance. Camilla marchait à grands pas pour rejoindre la compagnie quand elle aperçut Mandelbert tout près d'elle. « Je venais voir, lui dit-il, en la regardant d'un air où la satisfaction était peinte, je venais voir si vous nous aviez abandonnés, mais vous faisiez mieux que de penser à nous. » La fille de M. Tyrold, accoutumée depuis son enfance au respect pour le malheur, n'eut pas plus d'orgueil que de honte d'avoir été surprise par Edgar dans l'exercice de sa bienfaisance. Elle lui remit le mémoire de la pauvre femme en le suppliant de s'intéresser au sort du mari. « J'ai reçu d'elle un semblable papier, lui répondit Mandelbert, et je m'en serais occupée. Mais à présent qu'il m'est remis par vous-même, me voilà bien sûr de ne pas l'oublier. » Ils arrivèrent à la salle du bal. Le déjeuner était déjà commencé. Le jour faisant briller avec plus d'éclat les charmes des deux cousines, elles attirèrent aussitôt tous les yeux. Mais dans la simplicité de sa parure, Indiana ne paraissait point, comme la veille, au-dessus de toute rivalité, quoique néanmoins elle captivât et réunît les suffrages. C'était une beauté si régulière que l'œil le plus difficile n'y surprenait pas un défaut, et que l'admiration la plus complaisante n'aimait pas mieux s'arrêter sur un trait que sur un autre. Un statuaire n'aurait pas dessiné plus élégamment ses formes, un peintre n'aurait pu donner à son teint un coloris plus brillant. mais ici avait fini, à l'égard d'Indiana, la libéralité de la nature, qui, contente de ne pas souiller un si bel ouvrage en y renfermant des germes de bassesse et de méchanceté, n'y avait absolument rien mis de tout ce qui est véritablement noble et désirable. La beauté de Camilla, sans être parfaite ni régulière, charmait tellement ceux qui la regardaient qu'il ne leur était pas possible d'en apercevoir les défauts. Et le connaisseur le plus sévère, qui se fût obstiné à les chercher, aurait bientôt oublié les règles trop exactes de son art pour se livrer malgré lui à tout ce qu'il voyait d'aimable. Le jugement même, la plus froide de nos facultés, la plus difficile à séduire, elle finissait par le surprendre, quoique ce ne fût jamais près d'elle qu'on s'aperçût de la surprise. Son cœur était brûlant de sincérité, ses pensées entièrement pures de tâches, même légères. Le défaut dominant de son caractère, c'était une imagination qui ne pouvait se soumettre à aucune règle, mais qui, loin de diminuer, augmentait encore le pouvoir de ses attraits, s'emparer par sa brillante vivacité des têtes ardentes et impétueuses et pénétrer par un charme irrésistible dans les âmes calmes et réfléchies qu'elle forçait, pour ainsi dire, de sympathiser avec elle. Comme elles entraient dans la salle, un homme, dans un négligé très peu décent pour une grande assemblée, s'adressant à Camilla, lui demanda d'un air familier comment elle se portait, quoiqu'il ne fût pas connu d'elle. Elle se déroba, par une retraite assez prompte, à la conversation qu'il voulait entamer, et dans le même instant, elle fut abordée par un autre homme dont l'habillement recherché contrastait parfaitement avec celui qu'elle venait d'éviter. Il s'approcha d'elle en lui montrant une paire de gants tout neufs. « À la fin, madame, lui dit-il, vous voilà donc arrivée. Je commençais à croire que nous ne nous verrions pas et qu'en achetant ces gants-ci, j'avais fait des frais inutiles, quoique monsieur, il montrait Lionel, m'eût répondu bien positivement du contraire. » Camilla se contraignit pour ne pas rire des nouvelles prétentions et des gants de M. Dubster, car c'était lui-même. En même temps, elle faisait des signes à Lionel pour qu'il détournât la persécution. Mais il n'en tint compte. « Oui, ma sœur, s'écria-t-il, j'ai dit à monsieur que vous ne voudriez sûrement pas que ce fût pour rien qu'il eût fait une telle dépense. »« La dépense n'est rien, reprit M. Dubster, mais quand elle est faite, on est bien aise qu'elle ne soit pas perdue. » Mandelbert ayant tout disposé pour placer les dames à l'une des tables, Lionel, en dépit de la répugnance de Miss Margland, invita M. Dubster à s'y placer aussi. L'embarras de Camilla, qui n'osait pourtant pas le laisser voir, amusait la malice de son frère. Et Dubster, sans s'apercevoir combien on était étonné de la liberté qu'il prenait, s'empara d'elle entièrement. « Je vois, mademoiselle, lui dit-il en regardant Eugénia, que vous avez encore amené avec vous cette petite personne contrefaite. Tom Mix m'avait dit, et bien des gens le croyaient aussi, qu'elle serait un jour une riche héritière. » Apercevant alors dans les yeux de Camilla autant de surprise que de déplaisir, il ajouta finement « Pardon, mademoiselle, ce monsieur, montrant Lionel, m'a dit la vérité, et c'est vous-même qui serez héritière. » Malgré les signes de Lionel, Camilla allait lui répondre lorsque ce même jeune homme, mis d'une manière si négligée, se plaça devant elle et, la regardant fixement sans la saluer, lui parla du temps qu'il faisait avec toute la liberté d'une ancienne connaissance. Surprise et offensée, elle détourna la tête. L'autre, peu déconcerté, vint justement s'asseoir derrière elle. Au moment où la danse allait succéder au déjeuner, on vit paraître la même dame qui, la veille, avait fait une entrée si brillante. Elle était seule et parcourait la salle avec le même air d'indifférence sur ce qu'on pouvait penser d'elle. Tantôt, hâtant sa marche, comme si une affaire importante l'eût pressée, tantôt s'arrêtant pour porter à ses yeux une lorgnette qu'elle dirigeait spécialement sur quelques personnes. Ensuite, comme oubliant qu'elle était dans une assemblée publique, elle fredonnait une ariette et continuait d'avancer. Sa prétention d'être encore belle, quoiqu'elle eût passé son printemps, était aussi visible que réelle. Son habillement était plus recherché que la veille, comme pour contraster avec celui des autres qui était plus simple. Son air altier et l'aisance de ses manières semblaient dire à tout le monde qu'elle croyait ses charmes irrésistibles et son pouvoir absolu dès qu'elle voudrait prendre la peine de les déployer. Parvenue au bout de la salle, elle aperçut l'impertinent que Camilla cherchait à fuir. Elle s'approcha de lui en souriant et s'écria « Quoi, vous ici? Quelle divinité champêtre a pu troubler votre repos si matin ?»« Aucune, répondit-il en se frottant les yeux. Je suis horriblement endormi. C'est ici le centre des états de Morphée. Mais quelle barbarie à vous d'être venu si tard !» Camilla, frappée d'un pareil jargon, tourna la tête vers son voisin et, en l'examinant un peu mieux, reconnut à sa grande surprise le brillant et merveilleux jeune homme qui lui avait parlé si familièrement la soirée précédente, Sir Sedley Clarendel. Qui avez-vous amené ici ? Dit la dame à Sir Sedley en regardant Camilla et la compagnie. Ah ! Répondit Sir Sedley en les lorgnant comme s'il ne les eût pas encore vus. Je vais vous le dire. Et il lui parla à l'oreille. Puis il ajouta d'un ton plus haut. Deux parmi elles, jolies comme des anges, deux autres laides comme... Je n'ose achever. « Oh, je prends votre métaphore dans toute son étendue !» s'écria-t-elle en riant aux éclats, « et je trouve qu'elle est très juste. » Camilla, qui seule avait pu les entendre, rougit pour elle et fut fâchée de voir sa sœur mise de pair avec la gouvernante. Ils continuèrent de parler bas et de rire de leur saillie mutuelle, Sir Sedley assise à son aise et Miss Rhys Harberry faisant des nœuds. Les officiers et presque tous les élégants s'empressèrent de venir à eux, mais ni Clarendel ni Miss Rhys Harberley ne daignèrent s'interrompre pour rendre ou recevoir leur salut. Lionel, qui était accouru faire sa cour à cette dame, ne put attirer ses yeux ou ses oreilles par sa révérence ni par son compliment. Ce ne fut que quelques moments après qu'elle l'aperçut. « Ah, c'est vous, Monsieur Tyrold. Arrivez-vous en ce moment ?» Et sans attendre la réponse, elle s'adressa à une autre personne. Lionel sollicita la permission de lui présenter ses sœurs et sa cousine, demande qui lui fut accordée aussitôt. Indiana s'avança avec plaisir dans ce cercle brillant où tous les yeux l'assuraient qu'elle était belle. Camilla, quoique un peu alarmée d'être présentée à une dame qui lui semblait si extraordinaire, ne fut cependant pas fâchée de pouvoir l'examiner de plus près. Eugénia, qui aimait à observer, fut charmée de la carrière que promettait à ses réflexions une scène nouvelle et des caractères nouveaux. La seule Miss Margland trouva mauvais que Lionel disposât ainsi des personnes qui lui étaient confiées. Mais il ne fit que rire de ses remontrances et les jeunes demoiselles crurent n'être pas responsables d'une démarche qu'elle n'avait pas proposée. Mistress Harberry se leva à moitié pour répondre à leur politesse et leur fit un accueil si plein d'enjouement et de vivacité qu'elles oublièrent bientôt la mauvaise humeur où elles avaient laissé Miss Margland et même l'ordre qu'elle leur avait donné de revenir tout de suite. Mistress Harberry s'aperçut de l'impression qu'elle faisait sur elle et se sentit quelque désir de l'augmenter en développant tous ses avantages. Elle avait de l'esprit à volonté, elle réussit à le rendre encore plus brillant, parlant tantôt aux jeunes demoiselles, tantôt aux hommes qui l'entouraient, avec une gaieté si soutenue, un ton de raillerie si piquant, joint à tant de coquetterie dans les regards et à un certain air de négligence, animé seulement par le feu de son imagination, qu'elle n'aurait pu manquer de frapper de surprise l'observateur le plus éclairé. À plus forte raison de jeunes personnes sans expérience qui la voyaient pour la première fois, et qui, ouvrant à l'envi les yeux et les oreilles, la regardaient comme un phénomène à chaque preuve qu'elle leur donnait que l'éclat de son esprit égalait la singularité de ses manières. Au moment où l'on se disposait à danser, le major Sherwood conduisit à Indiana M. McDercy, le jeune enseigne qui, la veille, s'était adressé à elle avec si peu d'égards, et après quelques excuses sur ce qui s'était passé, il sollicita pour lui la permission de danser avec elle. Indiana, enchantée de cet hommage, fut au moment d'oublier Mandelbert, qui se tenait à l'écart, tranquille mais attentif, et elle allait donner son consentement lorsque, rencontrant les yeux d'Edgar, elle se rappela qu'elle était engagée. Le major Sherwood s'offrit lui-même à Camilla, mais Dubster, accourant, lui dit que cette demoiselle était retenue par lui depuis longtemps. Le major parut surpris, mais voyant Camilla rougir, il salua respectueusement et se retira. Pour elle, honteuse de son cavalier, elle se détermina à ne pas danser du tout, quoiqu'elle vît avec beaucoup de peine qu'elle allait être condamnée à la société de Miss Margland. accoutumée à ne voir autour d'elle que de la bonne humeur et de la bienveillance, elle avait presque en horreur le caractère irascible de la gouvernante. Monsieur Dobster, refusé par Camilla, ne s'était pas éloigné d'elle. Il avait assuré au contraire qu'il lui était aussi agréable de causer que de danser. Mais Miss Margland, qui avait appris que ce n'était qu'un petit marchand de campagne, parvint enfin à l'éloigner, et, se plaçant auprès de Camilla, elle se répandit en plainte contre l'aversion de Sir Hugh pour la capitale et contre l'impertinence de Lionel, avec qui elle était en guerre ouverte. Enfin, on annonça que les rafraîchissements étaient servis dans une autre pièce. Chacun se hâta d'y courir, quoiqu'on sortît de déjeuner. Mais il faut bien remplir le temps, et tel est le vide de ces parties de dissipation, que peu satisfait de l'amusement actuel, on attend toujours le nouveau qui doit succéder, et l'on n'a de plaisir que celui qu'on espère. Le temps commençant à s'éclaircir, on ouvrit une grande croisée. Sir Sedley Clarendel y courut, comme s'il n'eût pas été possible de respirer ailleurs, et tout le monde le suivit, en s'écriant que rien n'était bon comme un air frais, quoique pour en jouir un moment, on se pressa jusqu'à s'étouffer. Cette fenêtre donnait sur une place où s'étaient rassemblés les parents de plusieurs malheureux qu'on allait juger. Dès qu'ils aperçurent l'élégante compagnie qui, à l'occasion des assises, c'est-à-dire de leurs infortunes, s'était réunie pour le bal, ils levèrent les yeux et les mains, implorant leur charité. Personne n'y fit attention, personne même n'eut l'air de les voir. Chacun se retira tout doucement d'auprès de la fenêtre, et cette place devint en 2 minutes l'espace le plus vide de tout l'appartement. Alors, on fit passer de main en main un papier. C'était l'annonce d'un bracelet mis en loterie. Le prix était d'une demi-guinée pour chacun. Le bracelet parut et circula. Il était travaillé d'une manière assez élégante et garni d'un entourage de perles et de brillants, avec une place ménagée dans le milieu pour y mettre un chiffre. L'objet tenta presque tout le monde, et par une sorte d'attraction magnétique, toutes les bourses que l'aspect du malheur avait resserrées si vite quelques instants auparavant s'ouvrirent bien vite à la vue d'un colifichet. Miss Margland laissa Mandelberg payer pour elle. « Si je gagne, lui dit-elle, je m'acquitterai de ce que vous m'avancez. » Eugénia mit à cette loterie par curiosité, Indiana par l'espérance que son oncle lui rendrait cet argent, et surtout par le désir de posséder le bracelet qu'elle dévorait des yeux. Son cœur en palpitait. Camilla ne savait point exposer au hasard ce qu'elle économisait sur ses propres besoins afin de pouvoir en faire part aux autres. Cependant, elle connut en cette occasion combien il était difficile de résister à l'exemple. Et ce ne fut qu'après une petite lutte avec elle-même qu'elle prit le parti de se retirer du cercle et de ne plus regarder le bracelet pour éloigner la tentation. Edgar, qui s'aperçut du combat qu'elle éprouvait, la suivit pour lui témoigner son admiration. Mais il en fut empêché par Mistress Arlberry, qui s'empara de Camilla. Mistress Arlberry dit à l'un des aimables de sa suite qu'elle voulait s'asseoir. Celui-ci s'empressa d'apporter une chaise. « Est-ce que je ne verrai pas ce bracelet à mon tour ?» ajouta-t-elle. Et dans l'instant, Lionel courut, le prit sur la table et le lui présenta. « Fort bien, dit-elle, il est assez joli. Miss Tyrold, êtes-vous une des prétendantes ?»« Non, madame. » J'en suis charmée, nous essaierons notre fortune ensemble. » Camilla, quoique honteuse en secret de participer à cette extravagance, ne crut pas devoir se refuser à son invitation et donna la demi-guinée. Mandelberg se retira sans rien dire. Quand on eut inscrit tous les noms et recueilli tout l'argent, on annonça que la loterie serait tirée dans 3 jours à Norwich chez un libraire. Une partie de l'assemblée sortit. Ceux qui restaient se préparèrent à danser encore. Miss Margland pressa Lionel de faire avancer leur voiture. Mais Lionel, heureux de la contrarier, ne bougea point. Indiana demandait que la séance fût prolongée. Miss Margland n'y consentit qu'à condition qu'Indiana danserait avec M. de Mandelberg. « Vous n'ignorez pas, répondit Indiana, que je suis engagée depuis longtemps avec le colonel Andover. Eh bien, je me charge d'arranger cela. « Je lui parlerai. Si c'est là ce qui vous arrête, soyez tranquille. » Alors elle prit le colonel à part pour lui dire qu'elle se flattait qu'il ne se tiendrait pas offensé Si Miss Winmer dansait une seconde fois avec M. Mandelbert, que cela n'était pas conforme aux règles du bal, mais que des motifs particuliers rendaient cette infraction nécessaire. Le colonel répondit en souriant « Je m'aperçois que M. Mandelbert est un homme fort heureux. Je ne m'oppose point à ce que vous désirez. » Alors le bruit se répandit dans toute la salle qu'Edgar et Miss Winmer étaient destinés l'un à l'autre. Et tout le monde regretta qu'à peine connue, Indiana fût déjà liée par un engagement qui déconcertait toutes les prétentions. Mais M. MacDercy fut celui que cette nouvelle parut affecter le plus sérieusement. La danse finie, Mandelbert fit passer les dames de sa société dans une salle basse et courut à la recherche de la voiture. Il fut quelque temps sans reparaître. Miss Margland murmura comme à son ordinaire. Camilla se consola d'autant plus facilement de ce délai qu'elle était à côté de Mistress Arbery, dont les plaisanteries l'amusaient infiniment. Enfin, Edgar revint. Il était hors d'haleine. Sans prendre garde à l'humeur de la gouvernante, il dit à Camilla « Je vous annonce que votre pauvre femme est un peu rassurée. Je sais le nom du conseil de son mari. Je ne dînerai pas demain chez Sir Hugh. Daignez m'excuser auprès de lui. Mais je ne veux pas quitter Norwich que le jugement n'ait été prononcé. » Camilla fut aisément détournée de l'attention qu'elle prêtait à Mistress Arbery par le plus délicieux plaisir que le cœur puisse éprouver, celui de contribuer à la conversation d'une créature humaine. Edgar, enchanté de cette vive expression de la belle âme de Camilla, l'entretint un moment avec beaucoup d'action sur la suite qu'il fallait donner à leur démarche en faveur du malheureux prisonnier et sur le projet d'en instruire Mistress Arbery pour l'intéresser à son sort. Celle-ci, qui s'aperçut que leur conversation était assez animée, s'approcha de Camilla. « Qu'est-ce donc ? » lui dit-elle. « Qu'avez-vous ? Je vous vois dans une occupation. » Camilla lui confia le motif de leur petite conférence avec un attendrissement qui fit sourire tous ceux dont elle était entourée. Des infortunes de ce genre-là ne les touchaient guère. « Vous êtes dans l'âge des illusions, ma chère, » lui dit Mistress en lui frappant légèrement sur la joue. « Mais la fantaisie d'être charitable me prend aussi quelquefois. Je veux être de moitié dans votre entreprise. Donnez-moi quelques détails sur ce procès et je vous promets mon éloquence. » Camilla lui remit la pétition. Mistress invita M. Mandelbert à dîner et Miss Margland, ayant rassemblé tout son monde, ont repris la route de Clèves au grand contentement de la gouvernante.